Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin deux économistes dans le grand entretien du 7-9. Le premier est professeur d'économie à Sciences Po, directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Le second est professeur d'économie à l'université de Berkeley. Question-réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Lucas Chancel, Gabriel Zucman, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. Vous avez copiloté le rapport sur les inégalités mondiales rendu public hier. Le précédent daté de 2017. Le nouveau est le fruit d'un travail de 4 ans mené par une centaine de chercheurs sur tous les continents. Le spectre est très large puisque vous analysez les inégalités de richesse, de revenus, les inégalités entre les pays et à l'intérieur des pays, les inégalités de genre, les inégalités de pollution. On va y venir en détail. Votre travail mobilise une masse de données impressionnante, mais vous écrivez pourtant que, je vous cite, des informations essentielles sur les inégalités font défaut parce que les États ne les communiquent pas. Dites-nous pour commencer, Lucas Chancel, pourquoi est-il donc si difficile d'obtenir toutes les données nécessaires à l'étude des inégalités?
Eh bien, peut-être que parce que pendant longtemps, ce qu'on a regardé, c'est les chiffres du PIB. Comment est-ce que le PIB grossit, croît chaque année? Et en fait, ces valeurs sur la croissance du PIB ne nous informent pas sur qui gagne et qui perd au sein d'une économie. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de distribuer le PIB et justement de voir la croissance des classes populaires, des classes moyennes et des plus riches. Et donc, ce vaste réseau de chercheurs international, plus de 100 personnes, comme vous le dites, tente de faire ça de manière systématique, transparente, dans tous les pays du monde. On essaie d'avoir une approche vraiment coordonnée sur ces questions.
Vous écrivez que les inégalités mondiales semblent aussi fortes aujourd'hui qu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire à l'apogée de l'impérialisme occidental. En quelques mots, dites-nous, quel est l'enseignement principal de cette nouvelle étude par rapport à celle d'il y a 4 ans?
Alors déjà, entre ces deux périodes, il y a eu le Covid. Et donc le Covid a exacerbé les inégalités mondiales. C'est plus de 3600 milliards d'euros de capitalisation boursière supplémentaire pour les milliardaires de ce monde d'un côté. Et puis de l'autre côté, 100 millions de personnes supplémentaires rejoignent les rangs de l'extrême pauvreté, notamment en Inde, au Brésil, les populations rurales. Mais l'autre enseignement de la période récente, c'est quoi? C'est que on se rend compte que les services publics, les politiques sociales, la redistribution, c'est important, ça fonctionne pour réduire les inégalités. On l'a vu dans les pays riches, on a empêché une explosion de la pauvreté et ça c'est grâce à l'intervention publique et à ces politiques sociales. Mais dernier point peut-être, il faut les financer ces politiques sociales et c'est la question du consentement à l'impôt. Qui paye l'impôt? Qui va payer le prix de la dette Covid notamment?
On va venir évidemment aux questions de fiscalité. Sur le panorama, Gabriel Zucman, vous faites une distinction entre inégalité de richesse et inégalité de revenus. Vous dites que les inégalités de richesse, de patrimoine, si on veut, sont encore plus fortes que les inégalités de revenus. Expliquez-nous comment se sont constitués aujourd'hui ces patrimoines. Comment expliquez-vous l'importance qu'ils ont pu acquérir?
On vit dans un monde qui se caractérise par une très grande prospérité des patrimoines. Si on regarde au niveau agrégé, le ratio entre le patrimoine privé et le PIB, ce qui est produit chaque année, ce ratio est à un record aujourd'hui. Il a explosé pendant le Covid. On est maintenant à des ratios de 500%, 600% à l'échelle mondiale.
Expliquez-nous ce
chiffre. Ça veut dire que quand on regarde par exemple la France, la valeur des patrimoines privés représente l'équivalent de 5 à 6 années ou même presque 7 années en France, 7 ans de revenus national. Il y a une très grande prospérité des patrimoines qui vient de l'augmentation des prix de l'immobilier, qui vient de l'augmentation des cours boursiers, dans un contexte où les salaires ont stagné, les revenus ont très peu cru. Et c'est important parce que les patrimoines sont toujours beaucoup plus concentrés que les revenus du travail, que les revenus en général, en raison des processus dynamiques d'accumulation patrimoniale qui se font souvent sur des générations.
C'est pour ça que ces inégalités se sont encore accrues pendant le Covid, parce qu'en fait, ceux qui avaient du patrimoine ont continué à faire fructifier les choses, même si l'économie était stagnante.
Il y a eu deux processus pendant le Covid. Il y a eu une augmentation de l'épargne pour ceux qui pouvaient épargner, donc pour ceux qui étaient protégés pendant le Covid. Et puis, il y a eu aussi une envolée dans beaucoup de pays des marchés boursiers, des capitalisations boursières, avec la capitalisation de grandes entreprises quasi monopolistiques comme Amazon, comme Facebook, etc., qui a explosé, ce qui reflète une concentration croissante de l'activité économique dans des gros mastodontes, un processus qui date d'avant le Covid, mais qui a été renforcé par la pandémie.
Lucas Chancel, vous montrez dans ce rapport combien la question des inégalités est disparate à l'échelle mondiale. On apprend que l'Europe est la région la moins inégalitaire du monde, même si d'importantes nuances existent entre les États. C'est la seule zone, écrivez-vous, où la classe moyenne touche une part des revenus plus élevés que celle des 10% les plus aisés. Pourquoi cette singularité européenne ?
L'un des grands enseignements de ce rapport, c'est que ce qui fonctionne en Europe, ce sont les services publics, ce sont les politiques sociales qui vont réduire les inégalités primaires. Et ça, c'est extrêmement important. Historiquement, l'Europe a créé ce modèle social. Ça a permis de réduire les inégalités. Donc, de quoi on parle ici ? D'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'accès au transport, d'accès à l'information publique aussi, avec les services publics. Donc l'Europe réussit tant bien que mal à maintenir un niveau relativement élevé de services publics. Mais la question encore une fois, c'est comment est-ce que ceux-ci sont financés ? Et on voit un peu partout dans le monde qu'il y a une dégringolade des taux d'impôts pour les plus aisés, les multimillionnaires ou les milliardaires. Donc aujourd'hui la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on continue à maintenir ce niveau élevé d'accès aux services publics pour tous et comment est-ce qu'on les finance de manière juste ?
C'est-à-dire que l'impôt baisse au niveau mondial pour les plus riches, c'est ça ? Alors, de plus en plus, c'est ce que vous dites.
Du fait des politiques de baisse d'impôts sur les multinationales, sur les sociétés, on voit aussi que les taux d'impôts marginaux supérieurs, c'est-à-dire les taux d'impôts qui sont acquittés par les plus hauts revenus ou les plus hauts patrimoines, sont en baisse également dans de nombreux pays du monde. Tous ces facteurs mis ensemble font qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays, les milliardaires ou les multimillionnaires payent moins que la classe moyenne en proportion de leurs revenus ou que les classes populaires.
C'est ça le cœur du problème, Gabriel Zucman, vous qui étudiez ça depuis les États-Unis, depuis Berkeley, c'est que le mouvement va vers une baisse d'impôts des sociétés, va vers une baisse d'impôts sur les plus riches, alors que vous voudriez qu'au contraire, ça monte.
C'est-à-dire que c'est un processus qui risque d'être difficilement soutenable, que ce soit économiquement ou politiquement. C'est-à-dire que si la globalisation est synonyme d'impôts toujours plus faibles pour ceux qui en bénéficient le plus, c'est-à-dire les grandes sociétés multinationales, les hauts patrimoines, les travailleurs les plus qualifiés à hauts revenus, on se rend bien compte que c'est probablement pas très soutenable. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer d'inventer les nouvelles institutions, les nouvelles formes de coopération, les nouveaux traités internationaux qui permettront de réconcilier l'intégration économique mondiale, la mondialisation, avec une certaine progressivité de l'impôt, avec la justice fiscale. C'est ça qui rendra la mondialisation soutenable au XXIe siècle.
Vous proposez, et vous allez nous expliquer comment il pourrait fonctionner, Gabriel Zucman, un impôt progressif sur les millionnaires, les milliardaires, sur les plus hauts patrimoines, accompagné d'un supplément pollution pour ceux qui possèdent des actions dans des secteurs carbonés. Explication de texte, s'il vous plaît.
Le point de départ, si vous voulez, c'est cette grande prospérité des patrimoines, des hauts revenus et cette régressivité de l'impôt au sommet de la distribution. Donc maintenant, comment on résout ce problème ? Bon, il y a tout un tas de solutions possibles. Une idée qu'on met sur la table, c'est de refonder une imposition sur les grandes fortunes. La France en a eu une pendant des décennies, l'ISF, mais il ne fonctionnait pas très bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas taxer les milliardaires, les multimillionnaires. On peut les taxer avec un ISF qui fonctionne correctement. Donc je veux juste expliquer quelques éléments. L'ISF français fonctionnait très mal. On s'en est rendu compte de façon très claire avec une étude récente de l'Institut des politiques publiques qui calculait pour les très grandes fortunes françaises, les 380 plus grandes fortunes françaises, qu'est-ce qu'elles payaient en ISF à la veille de l'abolition de l'ISF. En fait, on s'est rendu compte qu'elle payait quasiment rien. Les milliardaires étaient de fait exonérés avec les mécanismes de plafonnement, avec l'exonération de l'outil de travail. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut refonder un ISF qui serait débarrassé de ces exonérations et qui permettrait de rétablir la progressivité du système fiscal, de sortir de la situation actuelle où, à la fois en France et aux États-Unis, les milliardaires payent moins d'impôts en proportion de leurs vrais revenus économiques que le reste de la population.
Ce serait quoi, en France, la bonne taxation? À partir de combien on est considéré comme très riche? Ce serait quoi les gradations?
Alors, moi, je pense que c'est vraiment pas aux économistes de dire quel devrait être le taux d'imposition, quels devraient être les barèmes. Évidemment, ça doit être le fruit d'une délibération collective la plus informée possible. Là où on peut se rendre utile, c'est en montrant la diversité des trajectoires et des expérimentations internationales, et aussi en regardant ce qui se passe à l'étranger. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? Il y a un débat, il y a un projet de loi qui est discuté au Sénat, soutenu par le président de la commission des finances du Sénat, le sénateur Ron Wyden, sur la taxation des plus-values non réalisées des milliardaires. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est débattu à l'heure actuelle. Alors, ce qu'il dit, ce sénateur Ron Wyden, il dit, voilà, les milliardaires, on va créer un impôt sur les milliardaires américains. Aujourd'hui, ils ont 5000 milliards de patrimoine, dont 2500 milliards, c'est des plus-values non réalisées, qui n'ont jamais été taxées. Et il dit, ces plus-values non réalisées, on va les taxer à 20%. Donc, ce qui revient à taxer 10% de la richesse de tous les milliardaires américains.
Ça vous semble être une bonne idée, par exemple?
Disons que c'est intéressant, ça ouvre des possibilités, c'est un impôt qui n'a jamais existé où que ce soit dans le monde, et donc il y a un débat fiscal vibrant, intéressant, dont on pourrait s'inspirer ici, en France ou en Europe.
Vous l'entendez, le débat fiscal vibrant, là, depuis le début, Lucas Chancel, depuis le début de la campagne présidentielle?
Nous, on est quand même marqué par le peu de propositions concrètes sur le plan économique, sur la réduction des inégalités, sur la dette Covid, donc ces 15 à 20 points de PIB supplémentaires utilisés pour payer ces dépenses Covid. Qui va payer cette crise? Est-ce que ce sont les jeunes générations qui ont été heurtées par la crise qui était dans ces files alimentaires l'année dernière? Est-ce qu'on leur demande dans 10 ans de repayer cette dette? Est-ce que, au contraire, on va demander aux multimillionnaires, aux milliardaires, aux grands gagnants de la mondialisation de repayer cette dette? Toutes ces questions encore restent en suspens et on attend des propositions concrètes sur ces sujets.
En tout cas, il faudra la rembourser, c'est ça, cette dette?
En tout cas, quelqu'un va payer. Quelle que soit la solution qui est choisie, on peut utiliser de l'inflation, on peut annuler une partie de la dette, certains proposent de réduire les services publics. Certains vont dire il faut faire payer les milliardaires. Chacune de ces options a des effets plus ou moins inégalitaires.
Un mot, Gabriel Zucman, oui, et on va au standard.
Là aussi, là où les économistes peuvent se rendre utiles, les chercheurs en sciences sociales, c'est en essayant de dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire. Donc il y a eu plein d'épisodes historiques avec un héritage d'une très lourde dette publique et les pays ont essayé d'y répondre de différentes façons. Donc par exemple, l'anti-modèle, ou un modèle possible, c'est le Royaume-Uni après les guerres napoléoniennes au 19e siècle, qui pendant un siècle rembourse la dette publique patiemment en envoyant de l'argent aux aristocrates anglais et en sous-investissant dans l'éducation, dans les biens et les services publics. Un autre modèle qui me semble peut-être plus prometteur, c'est ce qu'ont fait l'Allemagne, la France après la Deuxième Guerre mondiale, avec à la fois un petit peu d'inflation, des prélèvements exceptionnels sur les très hauts patrimoines et des annulations de dette. Ça a permis à l'Allemagne de se débarrasser de sa dette publique, ça a été le moteur du miracle économique allemand d'après-guerre.
Donc l'inflation qu'on voit réapparaître aujourd'hui ne vous fait pas peur?
Écoutez, 3-4% d'inflation, quand on part d'un ratio de dette publique, pour simplifier, mettons, de 100% du PIB, ça fait mécaniquement diminuer ce ratio de 3-4 points par an.
Bon, c'est pas mal.
Ça peut contribuer à alléger le fardeau de la dette.
Allez, on file au standard où nous attend Jean-Pierre, que je salue, bienvenue.
Allô?
Oui, on vous écoute, Jean-Pierre.
Oui, bonjour. Écoutez, je vais essayer d'être concis. Pour résumer, moi, à 15 ans, si vous voulez, j'ai été choqué par l'inégalité à la naissance, que je trouvais terriblement injuste. Aujourd'hui, je vais avoir 70 ans, et force est de constater que pour moi, rien n'a changé. L'étude de vos interlocuteurs le confirme. Malgré toutes les promesses que j'ai pu entendre pendant les campagnes électorales. Vous imaginez, entre 15 ans et 70 ans, bref. Et donc mon idée est simple, ce serait de supprimer les héritages. Autrement dit, par exemple, si je décède, mon appartement reviendrait à l'État, qui le remettrait en vente, parce qu'on peut être propriétaire de son vivant. Mais donc, à son décès, l'État récupère tout ça, qui, à mon avis, deviendrait donc immensément riche. Ça, j'ai du mal à l'estimer, évidemment, mais...
Mais en tout cas, on rebat les cartes, hein, c'est ça, à la naissance.
Leur priorité, juste pour terminer, je donnerais leur priorité à trois piliers d'une nation, à mon avis. La santé, l'éducation est gratuite pour tout le monde, et puis la recherche.
Bien compris, Jean-Pierre. Merci pour cette intervention. Lucas Chancel.
Oui, s'il y a bien un domaine où il n'y a pas une région ou une partie du monde qui réussit bien à réduire les inégalités, c'est sur la question du patrimoine, de la richesse, la concentration des richesses. Les 50% les plus pauvres ne captent jamais plus de 5% du total. Donc c'est une inégalité qui est considérable et qui n'a encore jamais vraiment été résorbée. Donc comment est-ce qu'on fait pour avancer? Eh bien, une proposition qui peut être faite, c'est de dire on a mis en place des salaires minimums dans de nombreux pays qui ont aussi contribué à réduire les inégalités. Pourquoi pas demain mettre en place un patrimoine minimum? C'est-à-dire que à 18 ans, à 25 ans, vous pouvez avoir une dose de patrimoine qui va permettre de réduire cette inégalité fondamentale et qui va se reproduire de génération en génération.
Qui serait pour tout le monde, tous les jeunes de 18 ans recevraient on va pas l'appeler le revenu universel, mais enfin un revenu du capital, c'est ça que vous...
Un patrimoine qui permet à chacun de s'inscrire dans le jeu économique, qui permet plus de dynamisme, qui permet vraiment, en fait, une réelle égalité des chances.
Combien il serait, par exemple, en France, à votre avis? Qu'est-ce que serait le bon taux?
Alors là, je reprends un petit peu ce que disait Gabriel Zucman tout à l'heure, c'est-à-dire que les économistes n'ont pas la valeur exacte de ce patrimoine. Plusieurs dizaines de milliers d'euros me semblent...
Par personne.
Vous savez, aujourd'hui, les 50% du haut ont un patrimoine qui est supérieur à 200 000 euros en moyenne. Et la moitié du bas n'a presque rien. Donc ici, vous avez une inégalité qui est phénoménale et fondamentale.
Jean-Pierre était radical, Gabriel Zucman. Hein. C'est pas de transmission d'une génération à l'autre. Il nous disait qu'il est propriétaire et qu'il ne veut pas transmettre. Oui. Ça, c'est vous le recevez comment?
Cette idée de favoriser la mobilité, la circulation des patrimoines,
c'est très américain.
C'est une idée ancienne, assez anglo-saxonne. Ah, oui. C'est vrai que les États-Unis, au milieu du XXe siècle, il faut le rappeler, avaient des taux d'impôt sur les hautes successions de 77% pendant la moitié du XXe siècle. Alors, c'est pas 100%, mais c'était des taux véritablement élevés, des taux encore plus élevés au Royaume-Uni. Ça n'a pas détruit le capitalisme américain, ça n'a pas détruit l'innovation, l'accumulation de patrimoine, les taux d'épargne, les taux d'investissement. C'est possible. En fait, je pense qu'une des grandes leçons du rapport, c'est qu'il y a une grande diversité des niveaux d'inégalité qui reflète la grande diversité des choix sociaux, des politiques publiques et en particulier des politiques fiscales qui ont été mises en œuvre et sans corrélation évidente avec la croissance, avec corrélation nulle ou peut-être même une corrélation positive au sens où quand il y avait une fiscalité très progressive que aux États-Unis, au Royaume-Uni, en fait, la croissance, l'accumulation de capital, les taux d'épargne, les taux d'investissement étaient plutôt plus élevés qu'aujourd'hui où on a une fiscalité bien moins progressive.
Diriez-vous que ces inégalités sont vécues de manière différente en fonction des régions du monde? Est-ce qu'il y a des endroits où ces inégalités sont vécues de manière plus violente, plus insupportable que dans d'autres?
Écoutez, les régions les plus inégalitaires comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, on le voit bien, sont des sociétés qui sont extrêmement fragmentées. Vous avez des quartiers qui sont entourés par des miradors pour empêcher... Il y a une violence sociale extrêmement forte. Et donc l'enjeu aujourd'hui pour des sociétés européennes, c'est de se demander comment est-ce qu'on évite de progressivement transiter vers ce type de régime extrêmement inégalitaire.
On retourne au standard, c'est Jackie qui nous attend. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Nicolas Demorand, bonjour Léa Salamé, les invités. Ma question est simple, lorsqu'il y a eu des grandes catastrophes dans le monde, même aux États-Unis, à la fin de la guerre de 45, le président américain a taxé tous les hauts revenus à hauteur de 97%. Ça a baissé au fur et à mesure des années et Reagan a donné le coup de grâce. Et maintenant, c'est la course à l'échalote. Et on le voit dans l'élection présidentielle française. C'est la course à l'échalote, c'est celui qui fera le moins d'impôts. Est-ce que c'est bien raisonnable lorsqu'on voit qu'on privatise l'eau, qu'on privatise la santé, que les laboratoires de vaccins font des milliards et rentrent en bourse, alors que les populations souffrent et que le monde n'est pas vacciné? Enfin bref, est-ce que ces domaines-là ne prime pas sur l'argent.
Merci Jackie pour cette question. Gabriel Zucman vous répond.
Oui, c'est vrai que les États-Unis, à partir des années 80, se sont lancés dans une grande expérimentation sociale. En baissant très fortement les taux d'impôt sur les hauts revenus qui avaient été créés par Franklin Roosevelt sous le New Deal. Et bon, ça fait 40 ans qu'ils se sont lancés là-dedans, donc maintenant on peut en tirer un bilan et on peut essayer de dire est-ce que ça a contribué à augmenter la croissance et qu'est-ce que ça a fait pour les inégalités. Alors, sur le plan de la croissance, le fait de base, c'est que la croissance américaine depuis 1980 a été significativement plus faible que dans les décennies précédentes. Dans les décennies d'après-guerre, le revenu national croissait de 2% par an par adulte en moyenne. Depuis 1980, il a cru de 1,4% par an par adulte. Deuxièmement, cette croissance-là a été très inégalitaire, au sens où pour 50% de la population, il y a eu zéro croissance, et pour les riches et les ultra-riches, 0,1%, le 0,01%, il y a eu des taux de croissance à la chinoise, si vous voulez, 6-7% par an. Donc, maintenant, on a ces éléments empiriques-là qui permettent de porter un jugement. Chacun ensuite porte son jugement sur les réussites et les limitations de l'expérimentation reaganienne.
On a beaucoup parlé de patrimoine. Au standard, Juliette souhaite revenir à la question des revenus. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour. Effectivement, sur les revenus, je pense qu'il est plus facile, en tout cas aujourd'hui, d'avoir un revenu minimum pour tous cohérent, un peu plus important que ce qui est actuellement, et pouvoir encadrer à ce moment-là le prix des loyers, puisqu'on se rend compte que le prix des loyers sur un budget
C'est le loyer, selon vous, le problème majeur, bien avant les inégalités de patrimoine, c'est ça?
Exactement, parce que tout à fait. Mmh. À aujourd'hui, je pense qu'il serait beaucoup plus facile et simple. Bon, le patrimoine étant une chose, ok, mais aujourd'hui, on se rend compte que le prix des loyers dans toutes les métropoles en France et voire même maintenant dans des petites villes de province est très onéreux par rapport au salaire moyen. Et là, on pourrait déjà peut-être un peu plus facilement, simplement en tout cas, faciliter. La vie pour tous, quoi.
Bien compris, Juliette. Merci pour votre intervention. Comment souhaitez-vous y réagir, Lucas Chancel?
L'une des tendances qu'on observe en France notamment, c'est la hausse des dépenses contraintes depuis une quinzaine d'années, qui est elle-même dirigée par cette hausse du prix des loyers, et surtout pour les classes populaires qui ne possèdent pas leur logement. Donc on est à la fois sur une question de revenus, mais on ne peut pas la déconnecter de la question de qui possède quoi, qui possède ces loyers, qui possède ces logements.
On a une question de Laurent sur l'application France Inter. Elle est courte mais forte. Et si on indexait la TVA sur les revenus? Gabriel Zucman. TVA que tout le monde
oui,
paye.
Oui, la TVA, c'est le plus gros impôt en France. C'est un impôt qui pèse lourdement sur les classes populaires, sur les classes moyennes. Et la meilleure façon, la façon idéale de contrebalancer la régressivité structurelle de la TVA, qui vient du fait que les classes moyennes, les classes populaires dépensent quasiment 100% de leurs revenus, alors que les plus fortunés ne dépensent qu'une partie de leurs revenus. La façon la plus logique de contrebalancer cette régressivité, c'est en ayant un impôt sur le revenu progressif et un impôt sur les patrimoines, en plus de l'impôt sur le revenu, pour la raison toute simple qu'il y a des gens qui ont beaucoup de patrimoine et peu de revenus taxables, et donc pour eux, l'impôt sur le revenu ne suffit pas.
La dernière question, Jean-Pierre, sur l'application. Vous ne parlez pas du tout de l'impôt minimum de 15% sur les sociétés que l'OCDE a imposé à l'échelle mondiale. C'est déjà ça, non? C'est quand même un progrès, vous demande-t-il, Lucas Chancel. Alors,
c'est extrêmement intéressant. Il y a une dizaine d'années, tout le monde disait très doctement, c'est impossible, on ne pourra absolument jamais y arriver, n'y penser même pas. Bon, on voit qu'on est passé de l'absence de taux à un taux de 15%. Nous, on pense que ça montre que beaucoup de choses sont possibles, qu'on peut évidemment avancer, mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que le taux d'impôt payé par le libraire du coin de ma rue, et l'IS en France, c'est 27%. Donc 15% de taux minimum, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de chemin à faire. Et si vous voulez, la course vers le moins-disant fiscal n'est pas terminée en Europe.
Loin de là, quand on entend les propositions, notamment des candidats de droite aujourd'hui. Éric Ciotti, il veut supprimer totalement les droits de succession. Ça va à l'inverse totalement de ce que disait. Il veut faire une flat tax à 15%.
Oui, ça a le mérite de la clarté, la flat tax à 15%, l'abolition des droits de succession. Maintenant, il faut se demander d'abord comment ça permet de financer le modèle social français avec son taux de prélèvement obligatoire de 50%. et quelles sont les conséquences en termes de dynamique des inégalités dans les décennies à venir.
Merci à tous les deux. Merci. Lucas Chancel, Gabriel Zucman. On mettra sur la page du 7-9 sur le site internet de France Inter tous les liens vers ce rapport. Merci encore d'avoir été nos invités ce matin. La revue de presse à suivre.